Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bonsoir, konnichiwa! Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour une émission littérature, spin-off, manga. Oui, on fait comme Star Wars, on fait des spin-off dans tous les genres. Et aujourd'hui, on va parler de la trilogie, des trois tomes du manga Star Wars Rebels. Alors, je suis Julien, je suis en direct de la province de Québec. Et en direct de la province de l'autre côté, Colombie-Britannique, j'ai envie de dire le scandaleux, l'outrageux, la monstrueuse personne qui a osé ne pas aimer les livres Thrawn. Jean, bonjour Jean.
Ah, et bonjour, bonjour à tous, bonjour à toi Julien. Ah, ça fait tellement plaisir de te retrouver en onde, enfin. Tu nous manques. Tu sais, moi je suis un gros fan de Star Wars en direct et j'adore ta voix. Et tu nous manques.
Merci pour ce retour. J'espère que tu n'es pas le seul à qui je manque, mais en tout cas, l'énergie du désespoir est là. Mais aujourd'hui, toujours présent, toujours debout pour parler de manga, pour parler Japanimation, pour parler tout ce qui gravite autour de la sphère manga et surtout Star Wars, puisqu'on est dans Star Wars en direct. Et j'ai envie de te dire, quoi de neuf de ton côté, vite fait?
Quoi de neuf? Allez, un petit quoi de neuf, vite fait, mais vraiment vite fait. J'en ai tellement des quoi de neuf dans la liste. Allez, on va faire ça. On s'est fini les vieux films Lego Star Wars. Je sais pas si tu les avais regardés à l'époque. C'est des vieux trucs. Ça date de 2011, là. Le film qu'on a regardé avec ma petite s'appelle The Padawan Menace.
Ok. Ça date de... Je me souviens des jeux, mais alors les films.
Ouais, non, mais c'est des téléfilms en plus. C'est des petits trucs. Et c'est des petits trucs, c'était moins événement que ce qu'ils font là régulièrement, là, depuis le rachat de Disney, avec les specials. Là. Donc là, c'était vraiment un film plus Lego, plus typé Lego. Là, c'est sorti en 2011, du coup, donc c'est avant le rachat de Lucas par Disney, tout ça. Ça dure 20 minutes, mais c'est super rigolo, là. C'était justement des enfants et tout, c'était super cool. C'est pas le même ton d'humour que ce qu'on a eu avec depuis Disney, là. Là, c'est plus des blagues à la Lego, plus vraiment plus que ce qu'on a dans les jeux. Ouais, justement, tu parlais des jeux. C'est avec les troncs qui s'arrachent.
Un peu burlesque, un peu...
Ouais. Et d'ailleurs, on a même dans celui-là, le Padawan Menace, là, donc qui c'est un peu en pastiche de l'épisode 1. Hein. On a Lego, comment il s'appelle, George Lucas. Voilà. Lego George Lucas qui fait...
l'époque où il n'avait pas vendu la licence.
Voilà.
Imagine Lego avec Lego Kathleen Kennedy.
Ouais, en ce moment,
Dave Filoni avec son chapeau.
Ah là là, je pense que les fans seraient aux anges de voir ça. Ah, en tout cas, c'était très cool, c'était rigolo. Alors, en plus, c'est marrant parce que vu que ça, c'est un pastiche l'épisode 1, donc t'as pas Dark Vador, mais t'as toujours le Lego Dark Vador qui est en arrière, tu sais, qui est avec les techniciens en fait qui sont en train de shooter le film et qui veut tout le temps participer au film en disant non, Dark Vador, c'est pas encore à toi, t'es pas censé être là. Enfin, c'était rigolo, c'est des blagues comme ça, vraiment débile, mais voilà, la petite, elle adorait. Et voilà,
donc cool.
Lego Star Wars, les vieux films Lego Star Wars.
Cool.
Et toi, Marie,
parles de vieux films Star Wars et ça me fait mal de le dire parce que déjà tu dis 2011, c'est vieux, mais en fait, récemment on a appris que la menace fantôme allait ressortir au cinéma. Et autant te dire, et puis c'est pas un secret pour tout le monde, hein, j'arrête pas de le clamer haut et fort, la menace fantôme, j'ai une place énorme dans mon cœur de fan de Star Wars. Ah. C'est l'un, si ce n'est mon épisode préféré. Je sais qu'il y a déjà plein de monde qui ont quitté à cause de ça, mais non, restez. Restez. Effectivement, la menace fantôme qui va ressortir au cinéma, qui m'a mis un bon coup de nostalgie, parce que c'est une époque où j'étais plus jeune, un peu plus insouciant, où j'étais au cinéma. C'était assez rare pour moi d'aller au cinéma. Et puis, ça m'a permis de me replonger. Tu sais, comme tu vois dernière mois, là, les vieux jeux...
Ah,
Star Wars Racer, Rock Squadron, c'est ce genre de choses hein, qui nous rappellent l'insouciance de quand nos parents s'occupaient de faire la nourriture et de payer l'hypothèque.
C'est la bonne époque. Est-ce que c'était ton premier Star Wars au cinéma, l'épisode 1?
Oui, C'était mon premier Star Wars au cinéma. J'avais vu les autres en VHS. Ah, voilà. Donc je vous laisse expliquer aux plus jeunes ce que c'est une VHS. Ça fait mal. Déjà qu'ils ne savent pas tous ce que c'est un DVD, ça fait encore plus mal.
Je pourrais en montrer là, mais non. Ouais,
mais oui, c'était mon premier Star Wars au cinéma. J'avais pas eu la chance. Mes parents ne m'avaient pas amené voir en 97 quand ils ont sorti les 4, 5, 6. Donc c'était mon premier au cinéma.
Ah, quel souvenir. Mais moi, pareil, je suis un peu comme toi. L'épisode 1, c'est mon épisode prélogie préféré. Voilà. C'est dit.
Voilà.
Allez, c'est... Et là, il n'y a plus personne.
Vous avez des gens de goût aujourd'hui dans Star Wars en direct. Donc c'est ça. Eh bien écoute, petit point sur nos précédentes émissions pour ceux que ça intéresse et ceux qui n'ont pas su notre actualité bouillante. Alors, dans les précédentes émissions qui sont disponibles, on a la série des émissions sur les épisodes de Bad Batch. Alors, ça dépend quand est-ce que cette émission sera diffusée, mais au moment où on enregistre, on a l'épisode 6-7 qui a été enregistré. Donc, on espère que vous appréciez la série Bad Batch. C'est toujours plaisant d'avoir une série Star Wars, surtout que l'activité est quand même relativement calme en ce moment. Donc, une série Star Wars, c'est toujours prenant. Au niveau aussi, cette fois-ci, plus du côté gamer. Non, vous ne rêvez pas. Un, vous m'entendez. Et deux, je vous parle d'une émission gamer. Alors, pas exactement, puisque c'est un Star Wars en direct express. Asmodi a eu la gentillesse de nous envoyer les starters des cartes à jouer Star Wars Unlimited. Alors, qu'est-ce que c'est ? Si vous connaissez un peu Magic, bah, c'est un petit peu le même concept. On a eu l'Orcana aujourd'hui, récemment, la série L'Orcana pour Disney. On relance, on retente encore une énième fois de lancer un jeu de cartes à collectionner et à jouer Star Wars. Cette fois-ci, c'est Star Wars Unlimited. On vous laisse aller voir l'Express pour dire ce que vous pensez des artworks. Niveau jeu, on va voir dans le temps parce que c'est le genre de jeu, il faut attendre des extensions, puis il faut attendre la folie des gens pour savoir si les cartes valent cher, comme Pokémon. Alors, ça ne vaudra jamais aussi cher que Pokémon, mais bon.
T'es OK avec l'artwork, justement, les artworks plutôt dessinés plus que les photos de...
Bon, moi, je suis OK pour le dessin. C'est juste que je suis pas moyennement... J'ai été moyennement impressionné, si tu veux. On sort d'un Magic. Magic, ça fait quand même une couple d'années. Magic, il y a un style de dessin qui est très intéressant, très adulte. On a eu Disney avec l'Orcana qui est très Disney. Alors, c'est bizarre dit comme ça, mais il y a une patte Disney qui est vraiment très chouette. Pokémon, c'est Pokémon, hein, je veux dire, c'est Pokémon. Je trouve qu'il a du mal à se démarquer au niveau artwork. J'ai un peu du mal. Alors après, c'est un avis personnel, hein. C'est totalement subjectif. Mais moi, j'ai un peu du mal à accrocher avec les artworks, les dessins. Quant aux mécaniques de jeu, j'ai pas eu encore le loisir, la chance d'y jouer, donc je pourrais pas trop t'en parler.
Et tu vas en jouer bientôt, tu vas faire quelques parties avec JF, du coup ?
Ouais, voilà, faudrait que j'arrive à sortir de ma grotte et rejoindre JF pour aller faire une partie, mais oui, on va essayer de faire ça à un moment, ouais. Puis au niveau des émissions, on a un petit peu notre émission, on va dire, événement. C'est une émission, une tentative, on espère que vous aimez ou que vous aimeriez, c'est un Star Wars en direct musique qui s'appelle Scarif Festival. La petite particularité de cette émission, c'est que c'est un peu une émission jeu de rôle dans lequel nous avons nos protagonistes qui, les personnages de Star Wars en direct, en tout cas les personnes de Star Wars en direct qui sont au cœur d'un festival de Scarif et qui essayent de jouer le jeu le mieux qu'ils peuvent, en tout cas c'est très chouette. C'est une très belle tentative et j'espère que vous aimez cette chose un petit peu plus originale qui gravite autour de l'univers musical de Star Wars. Autant vous dire qu'il a été démonétisé à vitesse industrielle cet épisode, donc n'hésitez pas à aller le voir et à aller l'écouter. Ça fait le tour pour nos émissions. On va pas tout de suite plonger dans les mangas Star Wars. Parce que Jean, on a la chance de pouvoir discuter tous les deux et on va un peu hijacker l'émission et on va petit peu parler actualité manga. Parce qu'autant vous dire qu'il y a eu de l'actualité manga, en veux-tu, en voilà. Alors, on va pas faire trop long, je vous rassure. Enfin, autant que moi et Jean, on puisse ne pas faire trop long. Mais...
Ouais, ça va être dur. On va essayer de faire court.
Ok, mais évidemment, on ne pouvait pas faire une émission manga. C'était impossible et inconcevable de faire une émission par manga sans parler du gros événement, de l'énorme événement qui a eu lieu malheureusement il y a quelques semaines, mais qu'on a appris il y a quelques jours. C'est le décès de Toriyama. Alors, Akira Toriyama, ou Akira Toriyama, si on veut le prononcer le mieux possible en japonais, je te laisserai Jean le prononcer le mieux possible. Pour ceux qui ne connaissent pas Akira Toriyama, vous avez forcément entendu un jour parler de Dragon Ball. Vous avez forcément vu au moins un personnage d'Akira Toriyama, que ce soit Dragon Ball, que ce soit Dr. Slump, que ce soit dans les jeux vidéo avec les immenses Dragon Quest et avec Blue Dragon, un peu moins connu.
Oui,
et si jamais, bon, vraiment, vous êtes passé à côté de tout ça, il vous reste une dernière chance, puisqu'un dernier jeu va sortir avec la patte de Toriyama dans quelques semaines, qui est tiré d'un de ses anciens mangas.
Oui.
Il s'agit de Len Saga. C'est ça, un Len Saga ? Non, Send Land, pardon. Voilà, Send Land.
Send Land, c'est ça.
Ouais, voilà, le paysage, le pays du sable.
C'est Dune version Toriyama.
Ouais, c'est vrai que ça tombe bien. C'est un mélange de Dune avec Armored Core, parce qu'il y a du tank et du soft,
enfin,
ou Valkyria Chronicle, bref. Ouais. Donc, revenons à Toriyama, qui est donc décédé à l'âge de 68 ans. A priori, ça serait d'un accident. Un accident qui avait causé un problème au cerveau.
Ah.
Une hémorragie au cerveau. En tout cas, on n'en sait pas. Ce qui est juste sûr, c'est que c'est un immense, immense, immense mangaka qui nous quitte.
Mais
et je voulais profiter de voir un peu toi, Jean. Mm-hmm. T'aimes les mangas?
Oui.
Il me semble que t'aimes le Japon. Tu t'es pas mis en Colombie-Britannique pour rien. Ne viens pas faire le naïf. Hein, je l'ai vu.
C'est vrai que le voyage est plutôt bon marché. Ouais. Mais effectivement, Toriyama, ben oui, qui nous a... Je sais pas, t'as dit la date? Il est décédé le 1er mars.
Il est décédé le 1er mars 2024.
Ouais, 1er mars, et nous on l'a pris récemment, quoi, une semaine après en fait. Ils ont mis une semaine avant.
Jours, au moment où on enregistre, on est le 13 mars, au moment où on enregistre, c'était il y a quelques jours qu'on a pris ça.
Bah, tu vois, c'était surprenant parce que, avec le décalage, ma femme qui check les news japonaises avait vu la news et j'étais là, mais et personne n'en parlait sur les réseaux sociaux. Je dis, mais comment ça se fait? Enfin, c'est Toriyama, pour moi, c'est le mangaka par excellence, c'est le plus connu. C'est si on te dit, on arrête quelqu'un dans la rue, on te dit, cite-moi un mangaka. Enfin, par Toriyama, c'est vraiment c'est l'alpha et l'oméga du manga, notamment en France avec Dragon Ball, Club de Roti, tout ça. Mais
t'as Eiichiro Oda qui risque de venir aussi deux fois
maintenant.
On va pas se cacher, le monsieur qui a fait One Piece.
One Piece, ouais, mais ça, c'est venu plus tard déjà. Et puis le nom, tu vois, Oda n'a pas été connu dès 97 quand il a lancé One Piece. Il a bien fait 10 ans de One Piece avant que son nom soit mémorable, quoi.
Et Toriyama fait partie de ces mangaka qui ont permis la percée du manga dans le monde, évidemment pas au Japon, mais c'est Dragon Ball qui, alors c'est pas le seul, je vous l'accorde, mais c'est Dragon Ball qui ouvre la voie en France avec le Club Dorothée, et aux États-Unis c'est Dragon Ball qui vient percer le monde du comics, qui vient percer cet univers. Donc Toriyama, c'est un immense personnage. Et toi, par rapport à ça, est-ce que tu es un fan de Dragon Ball?
Et non, moi, tu vois, j'ai pas connu le Club Dorothée, donc Dragon Ball, je suis passé complètement à côté. J'ai plus France 3, ouais, j'ai pas connu Dragon Ball, j'ai connu durant mon cursus universitaire, je vais pas m'étaler et tout, mais bien après, par le téléchargement.
Voilà. Ok.
Mais j'ai beaucoup aimé hein, la première série, très très longue, avec beaucoup de fillers, beaucoup de passages un peu longués, les combats un peu longués, mais je l'ai redécouverte avec la version Kai, donc qui short et tout ça.
Ouais.
Et la Kai est magnifique, en plus en HD, tout ça. Donc DBZ Kai, ça s'appelait.
Ouais.
Qui était superbe. Mais j'ai pas encore terminé ni la série DBZ Kai, ni Dragon Ball, la première série. Dragon Ball Super, j'ai pas encore. Là. Je me suis arrêté à la fin de Cell et le début de Boo. J'en suis là, tu vois. Donc je suis pas
c'est quand même des beaux combats à voir.
Voilà. Et pareil, pour la première série Dragon Ball avec un petit Goku, on a fait jusqu'à le premier arc où il s'échappe de la forteresse. Et voilà, on n'a pas continué. Donc il faut qu'on continue.
T'as pas vu encore, du coup, beaucoup les tournois, les choses comme ça. D'accord, ok.
Pas encore. Je ne suis pas à fond à Toriyama. J'ai plus d'attache avec Oda, justement. Mais bon, je reconnais quand même, pour Dragon Quest, rien que ça. Moi, je suis très jeu vidéo. Et Toriyama, c'est aussi Dragon Quest. C'est plus Dragon, comme tu l'as dit. C'est plein d'autres petits jeux comme ça où sa patte était très imitable. Je veux dire inimitable, mais non, très imitable, mais très. Enfin, tu voyais son trait, c'était du Toriyama. Quoi. Il a vraiment une patte unique.
Ce qui est particulier, c'est qu'il est tellement, imitable, mais c'est assez improbable que quelqu'un aujourd'hui dessine du Toriyama sans qu'on se dise c'est du Toriyama. Ouais. C'est ça,
c'est ça.
C'est-à-dire qu'il a mis son nom sur le style. Quoi.
C'est ça. Donc, rest in peace, maître.
Ouais. Moi, c'était premier manga, et d'ailleurs peut-être même le seul que j'ai partagé avec mon petit frère. Donc, encore une fois, on parlait de Star Wars épisode 1 juste avant. Très nostalgie, Julien, aujourd'hui. Hein.
Ouais, ça fait longtemps que tu n'es plus en onde. Ça te manque.
Très nostalgie, Julien, oui. Dans Akira Toriyama, voilà. Bon, j'aimerais bien arrêter d'être en onde dès qu'il y a quelqu'un qui décède. Hein. La dernière fois, c'était Leiji Matsumoto, ça m'avait fait mal.
Ah, c'est vrai. Oh là là, en ce moment, c'est vrai. En plus, il avait 64 ans, quoi. C'est ultra jeune.
68. Mais ça reste. Ah, pour un japonais, ça reste encore plus jeune parce qu'on sait l'espérance de vie qu'ont les japonais.
Ouais. Donc très triste. C'est triste, mais si tu veux enchaîner.
Oui, mais on va passer de l'autre côté du spectre de l'humour. De l'humour. Voilà. On est du côté triste avec Toriyama. On va être du côté joie cette fois-ci, puisque Miyazaki, Oscar.
Voilà, magnifique. Magnifique. Studio Ghibli, Hayao Miyazaki.
Pour le film Le garçon et le héron, que je n'ai pas vu, mais que tu m'as dit qui est exceptionnel, c'est ça?
Moi, j'ai adoré. C'est un petit bijou, c'est un petit chef-d'œuvre. Et voilà, l'Académie ne s'était pas trompée. Ils ont récompensé. Alors, j'imagine qu'évidemment, ils ont récompensé Ghibli, Miyazaki et toute sa carrière aussi. Quoi. C'est son deuxième Oscar. Après, c'était Chihiro qui avait eu le Voyage de Chihiro, qui avait eu le premier Oscar. Et là, c'est le deuxième Oscar de Miyazaki. Miyazaki et Suzuki, hein, ils sont deux co-directeurs. On retient souvent Miyazaki, mais il y a aussi Suzuki qui est avec lui. Et oui, moi, je conseille à tout le monde, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir. Je sais qu'il ressort au Canada, là, aux States aussi, pour l'occasion, grâce à l'Oscar. Si en France aussi, ça ressort, allez voir, c'est trop bien. C'est très perché, hein, c'est un Alice au Pays des Merveilles version. C'est un Miyazaki moins réaliste, contrairement à ce qu'il a fait avec Le Vent se lève, par exemple, qui était beaucoup plus ancré dans l'histoire, dans la réalité. Là, c'est beaucoup plus poétique et conte de fées, donc, comme ce qu'il a fait avec Chihiro. Il y a beaucoup de Chihiro, c'est un mix d'un peu tout, quoi. T'as un peu de Ponyo, t'as un peu de... C'est un peu une œuvre somme, tu vois. Il prend toutes ses influences, il a tout mis. Et il y a des passages, je te dis, un petit peu méta, un petit peu compliqué à comprendre, par contre, qui est que je suis sûr qu'il n'y a que lui qui a les tenants et les aboutissants du truc, tellement c'est un peu méta, c'est un peu perché. Mais le voyage est magnifique. Moi, je sais que ma petite est allée le voir, on est allé voir, quand on était au Japon l'année dernière, en juillet. Non, le film est sorti en juillet, on était en août, on est allé le voir là-bas. Un poil long pour les gamins, c'est 2 heures, c'est plus de 2 heures le film. C'est un poil long. Mais pour nous, c'est un voyage, c'est magique. C'est magique. Donc, ouais, je te le conseille grandement.
Et bien après le festival de la BD d'Angoulême en 2022 qui avait prisé Akiko et Higashimura, on a Miyazaki pour les Oscars 2024. Bon, ça y est, ça commence à s'internationaliser un petit peu plus tout ça, puis c'est très très chouette. Je dis internationaliser parce que bien sûr, il n'y a pas que le Japon. Hein. Pas mal persuadé que la Corée va bientôt débarquer au niveau
série. C'est un peu le cas niveau Oscar, tout ça. Enfin, il y a déjà eu des films primés.
Ouais, bien sûr.
Moyen, quoi. Mais là, niveau animation, en face, il n'y avait pas grand chose. Hein. Il y avait le Walt Disney, le Pixar qui n'était pas ouf. Il n'y avait pas grand chose en face, en fait. Là, j'ai plus.
Ouais, mais ça reste que c'était un très bon Miyazaki de ce que j'ai entendu.
Voilà. Est-ce que je vais passer parce qu'on va être une émission spoiler, full spoiler sur les mangas Rebels. Est-ce qu'on passe un hyperespace là où
non, il me reste une dernière petite news qui me tient à cœur, que je vais faire très très vite parce que ça intéresse 3 personnes. Mais voilà, je profite du fait que je suis à l'antenne, hein, puis sinon vous n'avez qu'à m'en vous renvoyer. Il y a le film Gundam Seed Freedom. Je suis full nostalgie. Gundam Seed. Alors si vous ne connaissez pas les séries Gundam, c'est des séries de robots. De grands robots qui souvent traitent du sujet de la guerre entre deux camps de manière plus ou moins profonde. Ces derniers temps, ils ont essayé de creuser un peu plus profondément, bien que l'avant-dernière série était plus light. Mais bon, Gundam Seed est un des premiers Gundam que j'ai vu. Allez, on est encore dans le nostalgie, hein. C'est full nostalgie. Très 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 grosse série Gundam pour moi, et il y a un film Gundam Seed Freedom qui sort pour son anniversaire. Aucune date au Canada. Allô, s'il vous plaît, on se réveille. Par contre, il y a une date pour la France qui est le 27 et 28 avril 2024 en France. Donc je vous invite à aller y aller, pulvériser le box office pour Gundam Seed pour montrer qu'il y a des fans de Gundam. Le hobby Gundam qui explose ici au Québec. Ah bon ? On a des groupes de Gunpla assez énervés au niveau des activités. Donc, autant vous dire que Bandai a compris que vendre des maquettes en plastique, ça rapportait du pognon. les chiffres de vente de Bandai ces dernières années sont délirantes à cause de Gundam.
Ah, c'est bien ça.
Ouais, à cause de Gundam, les chiffres sont assez délirants. Donc voilà, c'était petite news comme ça, rapide. Mais effectivement, maintenant, on va quand même parler Star Wars, sinon Danny va nous taper dessus un moment. On va parler du manga Star Wars Rebels, et évidemment, on va spoiler, mais bon, on va voir qu'on va spoiler finalement
une série
qui est un peu ancienne. Hein.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Donc, on va passer tout de suite en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mom.
All right, stand by.
Et voilà, on est arrivé de l'hyperespace pour parler du manga, en tout cas des mangas, de la trilogie manga Star Wars Rebels qui sort là prochainement, le tome 3 sort prochainement en France. C'est une trilogie de mangas qui raconte l'histoire de Star Wars Rebels saison 1. C'est pour ça quand je vous disais on va spoiler la saison 1 de Star Wars Rebels. Si vous ne l'avez pas vu, il est temps. Hein. Alors voilà, faites des enfants et regardez Star Wars Rebels avec eux. Ça marche.
Ouais, c'est Disney+, il y a toutes les saisons. Il y a quoi ? C'est 4 saisons maintenant ? C'est terminé.
C'est 4 ou 5. Je commence à m'en mêler moi, avec les différentes séries. Là. En tout cas, c'est un manga qui a été...
Ah, vas-y.
Voilà, alors on va commencer tout de suite avec les sujets particuliers, puisque c'est un manga qui a été dessiné par... Alors, deux points. Aoki Ko,
ou
Aoki Akira, ou... Et là, celui-là, je l'ai retrouvé, il n'y a pas longtemps, c'est... Qu'est-ce que je t'avais dit
Aoki
Mitsuri, hein, il me semble.
C'est ça.
Ah, je me suis perdu dans mes onglets, tu vois, j'ai voulu faire le malin et en essayant de faire attention avec mes onglets, puis... Ah, il est là. Mitsuru. Aoki Mitsuru. Donc en fait, ces trois noms sont la même personne. C'est juste que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Japon, on écrit les noms et les prénoms avec ce qu'on appelle des kanji, qui sont des sortes d'idéogrammes. Et on suspecte, en tout cas, j'en suspecte, puis je suis assez d'accord avec lui, que la traduction a été faite un peu comme on pouvait avec le nom, puis les différents éditeurs des différents pays ne se sont peut-être pas mis d'accord.
Voilà, c'est ça. En gros, là, en V, je ne vais pas dire en VO, parce que nous, on a eu les tomes en anglais, donc en VA. En VA. Donc le tome 1, tu as Mitsuru Aoki. Non, c'est pardon. Le tome 1, c'est Akira Aoki, et les tomes 2 et 3, tu as Mitsuru Aoki. Donc je dis, ah, ok, chelou. Je regarde sur Nominomi, donc Nominomi qui est l'éditeur en France. Lui, il a fait son taf comme il faut. Il a mis du Mitsuru Aoki sur les trois tomes. Donc on en déduit que ben, Mitsuru Aoki, c'est un peu son vrai nom, qu'on va dire. Mais du coup, moi, j'ai demandé à ma femme, du coup, qui parle un petit peu japonais quand même, quoi. Elle a quelques notions, on va dire. Elle est japonaise.
Quelques notions, mon Dieu, si elle t'entend, tu vas pas passer la nuit vivante, toi.
Heureusement, elle est pas trop française. J'ai demandé à ma femme de faire des recherches parce que je comprenais pas. Et en fait, elle m'a expliqué que évidemment, donc les kanji, donc c'était deux caractères pour faire le Akira et le Mitsuru, qui sont les mêmes kanji, et on imagine, hein, je sais pas aller demander à l'éditeur, mais que l'éditeur anglais n'a pas fait son taf, et qui, lui, il a vu les deux kanji, il a dit, vas-y, cherche Google Trad, il a fait, ah, ça fait Akira, ah ben c'est cool, ça ressemble à Akira Toriyama.
D'accord, c'est Toriyama.
Voilà, Akira, les gens, ils connaissent, on va mettre Akira, et puis dans le tome 2, ils se sont dit, ah, on a fait peut-être les cons, en fait, c'était pas Akira, c'était Mitsuru, et peut-être que l'éditeur japonais, il leur a dit, ah, les gars, c'était pas Akira, c'était Mitsuru, on s'est dit, oh merde, mais le tome 1 était déjà sorti, du coup, ils ont corrigé ça pour le tome 2 et le tome 3. En tout cas, tout ça pour dire qu'en France, il n'y a pas de souci. Le gars s'appelle Mitsuru Aoki. Et par contre, je n'avais pas trouvé le Aoki Ko. Et c'est rigolo parce qu'Aoki Ko, c'est... Mais ça fait très... Comment ?
J'avais dit... J'ai trouvé ça sur le site manganews.com. Ce nom-là, il est sorti là.
Ouais. Bah, en tout cas, voilà, c'est un peu nébuleux. Quoi. Et voilà. C'est encore plus nébuleux pour... Voilà, je ne sais pas si tu veux l'annoncer, mais qu'est-ce qu'a fait ce grand monsieur, Mitsuru Aoki ?
Ah bah rien. Alors, premièrement, je ne sais pas si c'est un nom d'emprunt, donc potentiellement il a fait quelque chose qu'on ne sait pas. J'ai fouillé le plus que je pouvais, et puis évidemment, moi je suis capable de fouiller que dans tout ce qui est anglais, ou qui au moins est écrit avec ce qu'au Japon on appelle les romanji, là, donc, c'est-à-dire l'écriture occidentale. Donc forcément un peu plus limité que par exemple ta femme qui pourrait aller chercher direct au Japon là. Mais en tout cas j'ai trouvé deux livres de ce monsieur qui sont globalement des livres de musée. Il y en a un qui s'appelle Soredemo Shikyu. Excusez-moi vraiment beaucoup pour mon accent, je m'excuse. Et le deuxième qui ressemble à un livre photo des années 1950, entre 1955 et 1974. Donc autant vous dire que c'est très particulier. Je suis même pas certain, ça a été listé comme ça sur les bases de données que j'ai trouvées, ça a été listé comme étant la même personne. Est-ce que c'est vraiment la même personne? C'est oui. Tellement pas du manga que j'ai un doute, mais bon. Voilà. En tout cas, c'est un faiseur. Hein. C'est une personne qui a été recrutée pour faire ça, ouais. Qui n'a pas été recrutée parce qu'elle avait une aura pour amener la série. On en avait parlé déjà dans les précédents.
Oui, d'ailleurs, si je peux rebondir sur ça. En fait, j'ai trouvé des infos sur ce gars vite fait. Hein. Il n'y a pas grand-chose. En fait, il a gagné un concours. En fait. C'était un concours pour trouver un dessinateur, justement. Mais pas pour faire cette adaptation de l'anime Rebels en manga. À la base, c'était pour faire l'adaptation en manga d'un roman qui s'appelle Lord of the Sith, donc Les Seigneurs des Sith, qui est un livre de Paul S. Kemp, qui est canon, mais qui date du début du canon, donc depuis 2014, je ne sais plus, le rachat de Disney, au tout début de...
À 2012, je crois, le rachat de Disney, de ces eaux-là.
Voilà, c'est dans ces eaux-là, en tout cas, le Lord of the Sith est sorti, je ne sais même pas s'il y a une traduction en France de ce roman-là, Le Seigneur Noir des Sith, Le Seigneur des Sith, par Paul S. Kemp, et donc il a fait un premier jet de cette adaptation de ce roman-là. Et ce roman-là n'a jamais eu d'adaptation officielle, donc en fait, il n'y a jamais eu l'adaptation officielle de Lord of the Sith. On l'a téléporté pour l'adaptation de ce manga Rebels. Ils ont changé complètement de bord. Ils ont arrêté de faire cette adaptation du roman pour faire plus une adaptation de la série. Voilà. Parce qu'à la base, au tout début, le projet, c'était faire l'adaptation de Lord of the Sith et de Heir to the Jedi de Kevin Aaron. Donc, ouais. Heir to the Jedi, c'est l'héritier de Jedi avec Luke sur la couve, là, je me rappelle, qui sont deux très bons bouquins, Lord of the Sith et Heir to the Jedi, deux très très bons bouquins du canon, du début du canon, et qui étaient censés être adaptés en manga, les deux, et aucun des deux n'a été adapté en manga au final, et c'est Rebels qui a pris la place, et c'est ce mangaka-là qui est passé mangaka de Rebels, voilà, pour la petite histoire.
On va voir du coup comment ils ont sélectionné.
Alors, sélectionner, ah oui, c'est intéressant.
Parce que ça veut dire qu'ils font des concours au Japon pour trouver leur dessinateur.
Voilà, exactement, complètement ça. C'était un concours pour trouver un dessinateur. Voilà. Donc, en fait, c'est un mangaka amateur. Mais voilà, ma femme avait trouvé 2-3 infos quand même sur ce gars. Parce qu'effectivement, les autres bouquins sur les musées ou sur les romans photos, ça fait très homonyme. Hein, parce qu'il y a énormément d'homonymes au Japon. Et donc là, ça serait plus... un manga, c'est un mangaka amateur en fait. Il n'y a aucune info, il n'y a rien, même sur les sites japonais, il n'y a rien, il n'y a aucune information sur ce gars. Donc oui, c'est totalement un amateur.
Ouais. On pourrait peut-être parler de son travail. Qu'est-ce que tu as pensé de ses dessins? T'as beau être un amateur, qu'est-ce que tu en as pensé?
Voilà, ben on peut commencer par ça si tu veux. Parce que justement, déjà, où on se situe par rapport à la série Rebels?
Oui.
Je vais commencer par ça.
Vas-y, fais-nous un petit résumé des trois tomes.
Ah oui, d'accord. Ah bah pardon, j'allais parler de notre avis sur la... Mais t'as raison, les résumés. On a oublié les résumés. Alors, vite fait, hein, parce que... Voilà.
Vite fait, on va vous faire les résumés, juste histoire que vous sachiez que ça résume les saisons 1 de Star Wars.
Exactement. Pour vous rappeler un petit peu ça, et pour... parce que j'ai mis du temps à écrire les résumés, donc j'aimerais quand même vous les lire.
Voilà, sa femme travaille pour l'épisode, mais c'est lui aussi un petit peu, donc autant qu'on parle de ce qu'il a fait lui.
Sachant que pour info, le tome 1, donc niveau histoire, il reprend donc le téléfilm en deux parties, Spark of the Rebellion, qui correspond au pilote de la série Rebels, avec un bonus, on parlera du bonus après, mais dans le tome 1, alors je ne sais pas en français, mais nous on a les versions anglaises, on a un bonus, en fait les quelques pages que le mangaka avait fait pour Lord of the Sith justement. Donc on a en bonus un peu l'adaptation de Lord of the Sith qui lui a fait gagner le concours pour participer à ça. Mais en tout cas, le premier tome, ça reste les deux premiers épisodes de Rebels. Le tome 2, ce sont les épisodes 5, 8 et 9 de la série. Donc on skip les épisodes 3, 4, 6 et 7 apparemment. Et le tome 3 adapte les épisodes 10, 13, 14 et 15. Le 15 étant bien le final de la saison 1. Et donc tu vois... voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, ils ont skippé quelques épisodes, quoi.
Globalement, ils ont skippé ce qu'on appelle les fillers. C'est un peu les épisodes remplissage qui n'amènent, qui ne font pas avancer l'histoire principale.
Voilà, voilà, voilà. Après, je t'avoue, je n'ai pas regardé en détail quel épisode ils avaient annulé. Enfin, ils n'avaient pas adapté.
Mais là, je ne sais pas si tu te souviens que la saison 1 de Rebelle est... met quand même un peu de temps à démarrer. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal. C'était très enfantin au démarrage. Mm-hmm. C'est très... comme pas mal toutes les séries dessins animés hein, de Star Wars.
Oui, mais...
Et elle prend son envol que à la, on va dire à peu près la moitié de la saison pour évidemment le final qui fait « Ok, c'est bon, on est parti, go
ouais. ». Mais carrément, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. La première saison, j'ai eu beaucoup de mal. Comme toutes les séries animées, c'est marrant, hein, que ce soit The Clone Wars avec Ahsoka, Ezra là, dans Rebels, et même c'était quoi
Ah, tu vas me parler de Résistance? Non, parce que Résistance n'a jamais vraiment décollé. Hein. Je veux dire, Résistance, il est resté. Au niveau des Podracers. Hein. C'est pas décollé.
Non, mais c'est plus, c'est vrai qu'elle n'a pas trop décollé, mais même si la deuxième saison est quand même vachement intéressante. Mais en fait, c'est plutôt le rapport que j'ai avec le héros de chaque série. T'as Kazuda, là, voilà, c'est le héros de Résistance. Et on pourrait même mettre Omega de The Bad Batch. Tu vois, ces personnages-là, ils mettent une bonne saison, voire deux parfois. Même pas 3 pour Omega, parce qu'Omega a toujours pas évolué. Avant d'évoluer, petit scud pour The Bad Batch. Mais pour évoluer, je pense que tu vois, Kazuda, saison 2 est vachement plus intéressant qu'en saison 1. Ezra, pareil, en fin de saison 1, ça commence déjà, tu vois, là, on va le voir. Ahsoka, elle a mis bien 2 saisons avant qu'elle soit plus, c'est insupportable. Mais ce sont tous des personnages qui évoluent. Souvent, t'as un petit gap temporel au début des saisons, après la saison 1 ou 2. Et encore une fois, sauf Omega, où t'as bien le gap temporel, mais malgré le gap temporel, la meuf, elle est toujours pareille. Enfin bref.
Laisse la critique de Bad Batch.
Voilà.
L'épisode Bad Batch.
Mais c'est marrant, ça, que Filoni, il a tout le temps, parce que oui, Résistance, on a beau dire ce qu'on dit, mais c'est une série de Filoni aussi, il a le producteur sur la série. Il peut se rater, et tu vois qu'il a la même structure en fonction des séries, c'est toujours la même. Mais bon, voilà. Donc moi j'avais un peu de mal avec la première saison de Rebels, je sais pas toi.
Le début était assez, moi j'appelle ça enfantin parce que c'était des petits épisodes où il se passait moyennement. Mais effectivement, comme tu dis, ça prend son envol par la suite.
Ouais. Donc on se rend le résumé vite fait.
Ouais, va la vite fait. Hein.
Allez, donc premier tome, on assiste à la rencontre entre Ezra Bridger, donc un garçon des rues de Lothal, hein, et le crew du Ghost, donc t'as Kanan, Zeb, Hera, Sabine et Chopper qu'on connaît bien. Ezra va voler un cargo impérial que Kanan et ses potes voulaient voler en premier, en fait. C'est comme ça qu'ils se rencontrent. Au final, ils vont arriver à mettre la main dessus et vont embarquer Ezra avec eux. Hera va vouloir le recruter, voyant un petit peu son côté rebelle dans les yeux, et aux grandes dames de Kanan qui lui n'en veut pas du tout au début. Même s'il ressent quelque chose dans Ezra, peut-être qu'il est fort sensitif, on ne sait pas. En tout cas, ils vont se rendre sur la planète Kessel pour sauver les esclaves Wookie. Kanan va se révéler à Ezra et aux impériaux, malheureusement. Être un Jedi, c'est là qu'on voit que Kanan, c'est bien un Jedi. Il allume ses lightsabers et tout, c'était vachement bien. Et au final, le Ghost va s'en sortir, ils vont récupérer les Wookie prisonniers sur Kessel et vont introniser officiellement Ezra comme nouveau membre de l'équipage. Donc ça, c'est le tome 1. Pour le tome 2, après un petit flashback, on voit un peu les origines d'un jeune Kanan qui seront sublimés dans le génialissime comics Kanan de Greg Weisman, ça, je dis ça comme ça. Et ouais, totalement massacré par Filoni, on va pas trop en parler aussi, dans The Bad Batch.
Arrête de dévier trop, reste dans le manga, sinon on va encore se faire engueuler qu'on fait une émission de plus d'une heure.
Pardon. En tout cas, Kanan va entraîner Ezra, Kanan a des doutes en tant que maître, évidemment, vu que lui-même n'a jamais vraiment achevé sa formation pour devenir Jedi Knight. Le crew entend dire qu'une Jedi Master, Luminara Underly, est toujours vivante et emprisonnée sur Stellion Prime. Donc ils vont se rendre sur Stellion Prime, vont se rendre compte qu'elle est déjà morte. En fait, c'est un piège tendu par le grand Inquisiteur. Là, c'est la première apparition du grand Inquisiteur et de l'Inquisitorius dans le canon Star Wars, dans cet épisode-là. Il va essayer donc de convaincre Ezra de le rejoindre avec le côté obscur, tout ça. Au final, la team va réussir à échapper au piège et Ezra choisira définitivement le côté lumineux et Kanan comme maître. Et ce tome 2, un deuxième arc après ça, sur Lothal, le Ghost va essayer de saboter l'Empire Day, le jour de l'Empire. Ils vont y retrouver Tsibo, c'est quelle race? C'est la même race que... Ah, j'ai plus le nom du gars, épisode 4, Handshot First, il est tard.
Grido?
Grido, voilà, la même race que Grido. Donc,
il est tard, il est 2 heures de... il est 3 heures de moins que chez moi, là.
Je ne peux pas le dire, il ne savent pas. En tout cas, c'est la même race, mais lui, c'est un vieil ami des parents d'Ezra, en fait. Donc, baston, un duel et un début de rivalité entre l'agent Kallus et Zeb. Le gosse va s'échapper avec Cibo, vont arriver atterrir sur un astéroïde. L'Empire et le Grand Inquisiteur vont partir à leur poursuite. Ezra va pour la première fois découvrir et apprendre à utiliser ses dons d'apprivoisonnement d'animaux. Je ne sais pas si tu te rappelles, il est bon pour tame les animaux sauvages, hein, grâce à la force. Un petit duel Kanan contre l'Inquisiteur, et nos héros vont arriver à s'échapper comme d'habitude. Hein. Ça, c'est souvent le cas à la fin des épisodes.
Il y a 4 saisons à faire encore. Hein.
Voilà. Et tome 3, Kanan continue la formation de Ezra, il visite un temple Jedi, celui de Lothal d'ailleurs. Ils vont passer quelques épreuves, voir et converser même avec le fantôme de la force de Yoda. Ezra va même récupérer un Kyber Crystal pour se confectionner le fameux sabre laser blaster qu'il aura tout le long de la série. Petit caméo de Leia, C-3PO et R2-D2 là, sur Alderaan. Je vous montrerai le manga après, la page du manga. Et Ben Kenobi aussi sur Tatooine, qui ressent quelque chose. Il y a de l'espoir, les Jedi ne sont pas morts. Ensuite, le Grand Moff Tarkin arrive sur Lothal, l'arrivée du Grand Moff Tarkin qui va ordonner au Grand Inquisiteur de capturer Kanan et Ezra. Pendant une mission de nos héros visant à retransmettre un message pour encourager la rébellion, en fait, Kanan va se faire capturer par le Grand Inquisiteur et amener devant Tarkin. Merde. On l'amène devant Tarkin, mais donc sur Mustafar, ils vont se rendre sur Mustafar, il va se faire torturer. On va lui demander notamment qui se cache sous le mystérieux nom de code Fulcrum. Attention, mystère. Le reste de la team du Ghost.
Je rigole parce que déjà que tu dis Kanan depuis tout à l'heure et là tu dis Fulcrum, c'est ça me fait rire. Toi qui es sûrement le plus anglophone de tous deux.
Pardon. Kanan
et Fulcrum, ouais.
Kanan et Fulcrum. Mais souvent quand je parle français, j'évite de prendre un peu l'accent anglais parce que je trouve ça un peu. Bref, le reste de la team du Ghost vient à la rescousse pendant que la team fait diversion. Ezra délivre Kanan, il team up les deux face au Grand Inquisiteur. Grosse baston là, vraiment une baston de ouf entre t'as Ezra qui team up avec Kanan qui se bat les deux contre l'Inquisiteur. Ezra a l'air d'apparence vaincu. Ça va unleash Kanan qui va défoncer le Grand Inquisiteur et le battre finalement. Il va heureusement retrouver Ezra sain et sauf. On est quand même qu'au début de la saison, hein, donc heureusement que Ezra est sain et sauf. Et la team s'échappe de la planète, mais l'Empire les poursuit. Bataille spatiale, bam bam bam, piu piu. Et là, d'autres vaisseaux rebelles menés par Bail Organa arrivent et les sauvent. Et là, les dernières pages, ben, ils vont rencontrer enfin le fameux Fulcrum qui n'est autre que Ahsoka Tano. Et voilà, le tome 3 finit sur ça. Et je te laisse parler parce que j'ai bien trop parlé.
Bon, c'est pas mal la saison 1 de Rebelle. Mais on n'achète pas le manga parce qu'on veut de l'histoire, on achète le manga parce qu'on veut pouvoir lire l'histoire Star Wars Rebelle. Et donc, comme on disait de notre gagnant du concours, ce qui est important, on reste sur des mangas qui ont été faits pour, on va dire... Je ne sais pas exactement l'objectif de ce manga, pour être honnête, hein, parce que bon, Star Wars Rebels, peut-être rendre accessible Star Wars Rebels à une autre, des personnes qui n'ont pas Disney+, ou des gens qui préfèrent lire, je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse juger des dessins en ce moment. Jean vous passe les dessins à l'écran. Je pense avoir lu tous les mangas Star Wars qui sont sortis à date aujourd'hui. Alors, comme on vous disait, nous, on les a lus en numérique anglais. Pourquoi est-ce qu'on les a lus en numérique anglais? Tout simplement parce qu'il n'existe pas de numérique français. Et que on n'a pas acheté la version française. Voilà, c'est tout. Fin du match.
Je crois que France, donc, c'est dégoté les mangas français.
Enfin, donc, si jamais Nobinobi veut les sortir un jour en numérique, hein, on sera preneur. Mais pour l'instant, à date, on est obligé de les lire en anglais. Moi, parmi tous les mangas que j'ai lus, Star Wars, ça fait partie des tomes que j'ai lus le plus facilement et de manière le moins laborieuse. On a déjà fait d'autres émissions où on a parlé de manga qui était quand même assez assez casse-pied à lire, on va appeler un chat un chat. On en a parlé d'autres qui étaient très bien, et celui-là, écoute, honnêtement, même moi ça m'étonne, mais j'ai beaucoup beaucoup apprécié le lire. Moi je l'ai lu très facilement, un petit peu comme un petit peu comme le manga sur la Haute République qu'on avait parlé. J'ai préféré se rebelle à la Haute République au niveau du dessin.
Ah ouais, quand même.
Ouais. Mais encore une fois, c'est subjectif, c'est mon avis personnel, tu vois.
Ah, complètement.
Ouais. C'est sûr qu'au niveau de l'histoire, c'est l'histoire que je connaissais déjà, donc c'est difficile, tu vois, par rapport à un... C'était Lost Star, je crois, l'autre.
Mm-hmm. Étoile perdue, ouais, l'adaptation du roman.
Ouais, l'adaptation de Lost Star, qui était très 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 bien aussi, mais qui du coup, était une nouvelle histoire pour moi, tout comme La Nouvelle République. Donc j'avais le plaisir de voir une nouvelle histoire dans ces mangas. Moi, je trouve que les dessins, en tout cas, ça correspond parfaitement à ce que je cherche dans un manga au niveau du dessin. Tout à l'heure, on pouvait paraître très très condescendant, puis j'espère qu'on l'a pas trop, on n'a pas se faire sentir ça, mais ça faisait un peu condescendant quand on disait c'est quelqu'un qui, c'était un dessinateur qui n'avait rien fait d'autre et puis qui a gagné un concours et qui est un amateur. Oui, c'est factuel, c'est ça, mais ça reste que le monsieur, il a du talent et du travail, hein, parce que c'est des très belles planches, je trouve, qu'il nous sort. Avec un mélange qui est très manga et que j'aime beaucoup, qui est des petits, comme tu vois à l'écran là en haut à gauche, ouais. Là, le Kanan. Alors il n'est pas chibi là, il est un peu mode simplifié, un peu gros. Des fois vous voyez des petits chibi, ouais. Voilà, comme le chibi Hera en bas là. C'est pas vraiment chibi à ce niveau là, mais.
Ouais, attends, je vais t'en montrer. Il y a plusieurs cases, ouais, chibi.
Voilà, là t'as un petit chibi Ezra. Enfin bref, les chibi, c'est les petits personnages manga, vous savez, quand ils ont un petit corps et une grosse tête. Pour les plus vieux d'entre vous qui sont aussi vieux que moi, le collège foufoufou, quand ils sont tout petits, là, voilà, c'est ça, chibi. Si jamais vous avez la ref, s'il vous plaît, dites-le moi, parce que sinon je me sens un peu seul. Je suis sûr que j'en ai pas.
Non, mais c'est quoi le titre en japonais, parce que je pourrais peut-être.
Là, tu m'en demandes beaucoup. Là, le collège foufoufou en japonais, là. Ok, là, tu viens me chercher loin, là, quand même. Mais non, moi, j'ai beaucoup aimé le dessin. C'est certain que tu vois, par exemple, le Stormtrooper en bas à droite, là. Bon, on s'entend qu'il devait être fatigué, qu'il devait être 2h du matin quand il l'a dessiné. Ouais, c'est pas son meilleur, mais on s'en fout. On s'en fout parce que le reste était cool. Voilà.
Ouais. Pareil. Bah, écoute, je vais te rejoindre pour. On continue sur les dessins. Ouais. C'est le point fort de ce manga. C'est si moi, tu vois, l'histoire de Rebels, ça faisait longtemps, la saison 1, ça fait une éternité que je l'ai regardé. J'avais un peu zappé le truc. Je savais même plus qu'Ahsoka. On a parti spoiler. Hein, donc, il y a Ahsoka à la fin. Je vais vous la montrer là. Je sais même plus qu'Ahsoka apparaissait en fin de saison 1. Moi, je me rappelais de l'histoire de Fulcrum. Il y avait un mystère sur l'identité de Fulcrum. Mais quand on la voit à la fin, j'avais complètement zappé. Je me rappelais vite fait du pilote avec la révélation de Kanan, le fait que ce soit un Jedi. Et surtout que je me rappelle la saison 1, c'était qu'Ezra me cassait les pieds, mais terrible. Et j'avais peur que ce manga reprenne ça, mais en fait, non. Pour moi, il sublime la série. Alors, non seulement niveau dessin, comme tu l'as expliqué, c'est à tomber. Le gars, c'est peut-être.
Regarde-moi ce Tarkin là.
Ça Tarkin, ouais.
On a Tarkin là à l'écran pour ceux qui nous écoutent juste en audio. Mm-hmm. Je pourrais plus vous dire sur quelle poche c'est là pour être honnête, mais vraiment.
C'est tome 3, ouais.
Si vous êtes un tout petit peu sensible aux BD japonaises ou même, je pense que même les jeux. Bah, quoi que non, faut être un peu sensible aux BD japonaises parce que c'est des pages qui sont très japonaises, mais.
C'est un art très japonais, hein, c'est ça.
Ouais, mais
Il n'y a pas un style qui ressort, tu vois. Tu vas pas te dire, lui, il a vraiment une patte particulière, tu vois, la Oda, par exemple, pour la Toriyama. Là, c'est vraiment du mainstream manga, mais ça sublime tout de même. Si tu apprécies cet art-là, le manga, regarde là, Ezra n'a jamais été aussi badass que dans ces trois tomes de manga.
L'ironie de l'histoire, c'est que je le trouve plus cool en manga. C'est comme Ahsoka.
Oui,
je l'ai trouvé plus de prestance dans le manga que dans, dans la série.
Que ça soit Ezra qui est nettement plus stylé et cool, mais Kanan, c'est pareil, là tu vois, on voit Hera à l'écran. Hera qui est déjà magnifique. Moi, c'est mon perso préféré de Rebels, je te dis direct. Hera et Kanan, tu vois, moi, j'ai chippé déjà à l'époque, mais là, les deux, ils sont à un niveau de classe.
C'est un chouette couple, ouais.
Ah, c'est super. Et là, je sais pas, on va tomber sur une page où justement, quand il délivre Kanan, il se retrouve, c'est juste magnifique. Sabine, qui était très insupportable aussi en début de série, on se rappelle, là, et encore une fois, sublimé par les dessins. Moi,
tu vois, je trouve que Sabine est peut-être, si on veut être piqué,
c'est
peut-être celle qui a une step en dessous. Je sais.
Ouais.
Parce que j'aimerais aimer Sabine.
Ah, mais parce que tu l'as pas apprécié malgré la suite de ses aventures.
Non, dans Star Wars Rebels, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai eu la pas de chance de regarder la série live. Ahsoka, dans lequel tu as pas mal la saison 5 ou 6, là, j'ai oublié. Là. Mais tu vois, je la trouve peut-être une step en dessous des autres au niveau du dessin, mm-hmm. mais encore une fois, c'est très subjectif et c'est un avis personnel. Hein. Vous pourriez tout à fait pas être d'accord avec moi.
Ouais. Ben, je ne suis pas d'accord.
Alors, on va se taper dessus.
Non, mais je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que Kanan Ezra, Hera, l'inquisiteur, Tarkin, sont tellement au-dessus. Tu vois, moi c'est Zeb et Chopper, c'est un droïde, tu me diras. Il dessine très bien. Les droïdes, les vaisseaux, tout ça, pas de souci. Et même Zeb, je les trouve fidèles à leur homologue série. Il n'y a pas de souci. Mais je t'avoue que tous les autres, le style de comment il s'appelle j'ai plus son nom. C'est pas Akira, Aoki, voilà, Aoki ça. J'ai surkiffé là, tu vois, l'inquisiteur, il te dessine l'inquisiteur. Moi, je le trouvais très ridicule, hein, je t'avoue, dans la série, il me fait pas peur, quoi. Là, chaque apparition de l'inquisiteur, c'est les cernes noires, beaucoup de noir, beaucoup d'aplats de noir, avec ses dents acérées là, et je le trouve terrifiant, quoi. T'as des visions horrifiques de l'inquisiteur, du grand inquisiteur, que je trouve magnifique, quoi. Et une des grandes forces du manga, c'est le dynamisme dans l'action, quoi. Je comprends qu'une série en 3D, surtout que c'était au début de la, enfin, tu me diras, ça remonte quand même à Rebels, c'est quand même vieux. C'était un peu vide comme décor, les scènes d'action n'étaient pas ouf non plus. C'est une série pour jeunesse à la base, et c'est une série américaine à la base, ça aussi.
Oui. Là, puis petit détail aussi qu'il faut peut-être mettre en avant, puis tu t'abordes le sujet, c'est que ce manga est classé dans ce qu'on appelle les shonen. Pour ceux qui connaissent pas, les shonen, c'est les mangas. Alors, ça fait pas très 2024 de le dire comme ça, on est d'accord, mais je vous le dis comme ça. C'est les mangas pour jeunes garçons. Vous avez les shonen pour jeunes garçons, les shoujo pour jeunes filles, puis les seinen pour après les jeunes adultes.
Adultes.
Ce qui fait que quand vous avez un manga seinen, vous avez plus de combats, plus de sang, etc. Quand vous avez un manga shonen, par exemple, c'est là où vous avez par exemple les Naruto. Vous avez les One Piece, vous avez les Dragon Ball, donc c'est un petit peu le personnage qui va grandir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Pourquoi ? C'est parce que peut-être que j'ai quand même le sentiment que la cible de Rebelle était une tranche d'âge en dessous, versus le manga. Et c'est peut-être pour ça que nous, ça nous accroche, on trouve l'Inquisiteur plus badass, si je puis me permettre l'expression, en manga, que dans la série, parce que la série, ils l'ont beaucoup lissé.
Oui, complètement. Ouais, je suis complètement d'accord. Bah oui, mais c'est marrant parce qu'en lisant ce truc, enfin en relisant, parce que je l'avais lu à l'époque en 2000, il faut dire qu'en anglais, c'est sorti il y a 2 ans.
Oui, il a fallu qu'on les relise pour faire l'épisode, hein, je vous le dis.
Ah, ouais, parce que ça fait 4 ans qu'on les attendait. Là, c'est bien, Nomidomi les a sortis les 3 d'affilée, là, genre en novembre, décembre, janvier, je sais plus. Enfin, c'était très très court, ou octobre. Mais là, en relisant le truc, ça faisait très très Neketsu, shonen quoi. Shonen. Avec le Ezra qui découvre ses pouvoirs, qui découvre une nouvelle famille et qui va monter en puissance petit à petit, ça faisait complètement ça quoi. Donc, complètement.
Est-ce que. Alors, question pour un champion. Est-ce que c'est un manga que tu recommandes à acheter ?
Alors, c'est intéressant comme question. Très bonne question, on l'a pas du tout préparé. À qui s'adresse ce manga et pourquoi avoir fait une adaptation ? Parce que si on avait tout le temps discuté à chaque émission manga, on se dit, mais à quoi ça sert de faire une adaptation d'une œuvre qu'on connaît déjà, notamment en série ? Quand c'est une adaptation de roman comme le fameux Lost Stars que tu n'as pas lu, ou le Leia Princess of Alderaan, c'est cool, parce que bon, tout le monde n'a pas l'occasion de lire le roman. Quand c'est des histoires inédites comme un équilibre fragile de la Haute République, justement, qu'on avait beaucoup apprécié aussi, oui, pourquoi pas. Là, c'est une série animée. Pourquoi faire un manga ? Moi, je trouve que ça ramène une autre audience, tu vois. Peut-être plus jeune, peut-être plus âgée, j'en sais rien, franchement. Mais moi, je te dis, la série Rebels, c'est la série que je préfère, toute série animée confondue. Mais, encore une fois, la saison 1, moi, elle me rebute vraiment, quoi. Moi, le côté un peu trop enfantin, un peu trop... c'est enfantin, mais dans une situation très dark, tu vois. C'est quand même la guerre civile et tout. Du coup, t'as des espèces de... C'est un truc très américain dans ces séries-là, où t'as des espèces de blagues un peu débiles, très très childish, tu vois, qui ramènent au niveau un cran en dessous pour l'audience qui est ciblée, quoi. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais dans ce manga, justement, j'ai pas retrouvé ce genre de ça. Je trouve que c'est le mangaka utilise les codes du manga pour, justement, une audience peut-être un poil plus mature, genre teenager, tu vois. Mais il utilise tous les tu vois tout ce qui est penser des personnages par exemple. Penser des personnages, ça on n'a pas du tout dans la série. ou à très rares occasions. Et là, ben Ezra, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le Ezra de ce manga-là, c'est qu'on est très 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 souvent dans sa tête, dans ses pensées. On a beaucoup de flashbacks avec lui, et ça développe le personnage. Et je trouve que ça apporte de la profondeur au personnage, qui devient nettement plus intéressant que celui de la série en fait. Donc pour moi, je trouve que c'était une très bonne idée d'adapter cette histoire-là, parce que le mangaka a réussi. Il aurait pu faire un copier-coller, hein. Ça, on se rappelle les comics mandaloriens qui sont nuls à chier parce qu'ils copient-collent la série, qui apporte absolument rien. Là, ce manga-là, et le mangaka, big up à lui, quoi. Il apporte quelque chose que la série n'apportait pas. En fait. Notamment, donc, les pensées des personnages, les scènes d'action ultra badass, les dessins ultra stylés, les décors ultra stylés, tout ça. Tout ça.
C'est un peu un résumé de la saison 1. C'est un peu un résumé de la saison 1, si tu veux. Si jamais vous voulez pas vous taper toute la série, que vous trouvez ça un peu trop, c'est un résumé de la saison 1, ce qui vous permet d'embarquer dans Rebelle.
Complètement. Et puis c'est dommage, malheureusement, voilà. Il y a que 3 tomes de dispo, la saison 1, et c'est fini. Donc la série, elle est finie, elle a été publiée au Japon, je te dis, il y a 4 ans, donc il n'y a pas eu de reprise, il n'y a pas de plan pour les saisons suivantes. Donc c'est terminé, quoi. C'est une série terminée à l'heure actuelle. C'est dommage, parce que pour savoir la suite, pour ceux qui n'ont pas lu... ceux qui n'ont pas vu Rebels en série, là, pour avoir la suite de ces aventures-là, il va falloir se tourner vers la série, il n'y a pas le choix. C'est très dommage. Ils auraient pu, même si il y a souvent des problèmes de santé, les mangaka, ils ont souvent ça au Japon, prendre un autre mangaka, je ne sais pas, mais trouver un autre moyen pour continuer la série. Quoi, mais
le problème, on en parlait dans une précédente émission, c'est qu'ils utilisent le manga pour tenter de percer le marché japonais et en partie pour se faire une part de l'argent que fait le manga dans le monde, qui est incroyable. Mais ils n'utilisent pas au Japon les clés de publication japonaise. Donc ils ne pourront jamais percer au Japon s'ils continuent à avoir cet état d'esprit américain qui est... Star Wars n'est pas connu au Japon. Alors, les gens connaissent Star Wars, mais il n'y a pas de fanbase comme tu as ici qui te permette de lancer un produit. T'as pas de figurine bébé Yoda en vente au supermarché au Japon. Ah, t'as des figurines One Piece, t'as des figurines Dragon Ball, mais t'as pas de figurine bébé Yoda. Donc voilà, un manga comment ça se vend? Ça se vend à travers les Weekly Shonen Jump, comme vous voyez derrière moi là, pour ceux qui ont le truc là. Voilà, ceux-là là, c'est des gros magazines, des espèces de magazines La Redoute si vous voulez, dans lequel vous avez un chapitre de votre manga. Vous avez 8 mangas qui sont publiés comme ça toutes les semaines. C'est un rythme incroyablement effréné pour les mangaka. Il faut déjà qu'ils fassent des pieds et des mains pour rentrer là-dedans. Puis quand ils sont assez célèbres, ils continuent à être publiés. Puis à la fin, ils en font un relié qui sont les mangas qu'on connaît. Puis c'est ça que les gens achètent. C'est ça, là. Je vous l'ai fait en manière très vite. Lisez Bakuman si jamais vous voulez en savoir plus. mais voilà, donc au Japon, ça m'étonne pas que ça perce pas. Maintenant, est-ce qu'un fan de manga va s'y retrouver? Oui. Mais voilà, c'est pas un gros risque financier, ces 3 mangas, ces 3 tomes. Nobinobi, des retours que j'ai vus font du super boulot. Mm-hmm. Donc c'est toujours chouette de mettre en avant les... Et puis en France, on a des excellents éditeurs de manga. C'est moins vrai aux États-Unis, pour avoir comparé les deux. J'ai pas dit qu'ils étaient mauvais forcément du côté des États-Unis, mais ils prennent des parties qui... Enfin...
Ouais. T'as qu'à voir la musique de Dragon Ball de l'animé américain.
Récemment, j'ai quand même eu un débat avec des Québécois qui trouvaient que la version française de Dragon Ball Z était scandaleuse et que la version anglaise était meilleure. J'ai fait oula.
Alors, on rentre dans un débat là, on n'est pas fini.
S'il vous plaît, messieurs, est-ce qu'on pourrait arrêter de dire n'importe quoi? Il y a un moment, voilà, je veux dire, non, mais bon. Bref, après, je rentrais pas dans le débat.
Tu parlais un peu de l'industrie, voilà, du manga japonais, et ouais. Pour info, pour ce manga-là en particulier, là, j'avais trouvé ces infos-là. En fait, la publication du manga, donc Rebels, a débuté sous forme de webcomic, donc le 6 décembre 2019, donc ça ressemble, sur Line, donc c'était ultra niche.
Ah oui, quoi. C'est vraiment Japon, quoi, du coup.
Parce que Line, c'est un réseau social japonais, quoi, exclusivement japonais.
Ça serait Messenger, l'équivalent de Messenger ou de WhatsApp, si vous voulez.
Voilà, exactement, c'est ça. C'est très japonais, et à coup de un chapitre toutes les 2 semaines. Et donc, c'est exclusivement digital, vu que c'est un webcomic, quoi, comme Lost Stars. Hein. Lost Stars, c'était exactement le même style.
Solo leveling pour ceux qui veulent quelque chose non Star Wars comme comparatif.
Voilà. Exactement, ouais, c'est un des plus connus, ouais, effectivement. Et le dernier chapitre donc, de Rebels est sorti en octobre 2021. Donc, il faut calculer du décembre 2019, octobre 2021. Donc, ça fait 2 ans pour publier 3 tomes. Donc, c'est énorme.
Ah bah, c'est pas One Piece, hein, on s'entend. Voilà. Mais...
C'est 34 chapitres en 3... En, ouais, en deux ans, en 2 ans.
Mais ce qui paraît être un rythme quand même plus soutenable, hein, parce qu'on s'entend qu'un chapitre par semaine...
Voilà, c'est... Bon, il avait 2 semaines, tu me diras. Mais en même temps, il, s'est... Voilà, il y a eu des hiatus, quoi. Peut-être à cause des conditions de santé du mangaka, mais encore une fois, on en parlait pour le manga Leia, justement, avec le 3e tome qui est toujours en hiatus. On ne sait pas si le 3e tome de Leia Princess of Alderaan sortira. Mais là, tu vois, par exemple, après le tome 2 de Rebels, au chapitre 23, le mangaka était en hiatus en septembre 2020. Il a recommencé en janvier 2021, donc à 6 mois, il n'y avait rien.
Qu'est-ce que ça paraît hiatus pour les gens?
Ah pardon, hiatus, c'est une pause en fait. Une okay. pause, c'est quand le manga est en hiatus, c'est le manga est en pause.
Le manga est en pause, quoi.
Voilà, pour une raison quelconque, quoi. Ça peut être le mangaka. C'est souvent le mangaka, je t'avouerai. Et il y a eu un deuxième hiatus en 2021. Donc en gros, il y a eu 2 grosses périodes de pause, voilà, qui a empêché le manga de sortir au plus vite, quoi. En plus de ça, ben, voilà, plus la traduction anglaise est arrivée plus tard, et la traduction ou l'acquisition des droits peut-être des mangas en France arrivait mais bien plus tard avec ce tome 3 qui sort en février 2024, tu vois. Alors que le truc a commencé en 2019. Bref, c'est une histoire de fou, ce manga. Mais heureusement, il est là, mais et encore une fois.
Si vous aimez Star Wars, vous aimez les mangas, c'est parmi les meilleurs
oui.
actuellement sortis en français et en anglais.
Ouais, de disponibles. Il n'y a pas de grosses dubs en manga. On avait beaucoup aimé les Lost Stars, Leia et.
T'avais. Comment il s'appelait là ? Attends,
c'est toujours trop.
Le truc avec les six histoires là où tu en avais vraiment qui étaient vraiment nuls.
Ouais, c'est ça, c'est le Luke Skywalker, Legends of Luke Skywalker. C'est un peu le
seul. Ah oui, c'est pas acheté, ça. Ah, c'était mauvais.
À part ça. Et voilà, et pour info, ben là, on peut peut-être projeter pour l'année 2024. Il faut savoir qu'en VF, ils ont eu un 2e tome de Mandalorian. Enfin, les 2 tomes, pardon, de la série Mandalorian en manga qui sont sortis. Ainsi que le manga Vision, en mai dernier, si je me rappelle bien. Mais nous, en VA, en version anglaise, on ne les a pas encore. Enfin, on a le 1er tome de Mandalorian, mais on attend le 2e tome de Mandalorian pour mai qui arrive, ainsi que le manga Vision qui arrive aussi ce mois de mai. On aura 1 an de retard.
Vous comprenez que c'est pour ça qu'on sort les épisodes de manière très erratique, parce que voilà. Nous, on est calés sur les sorties anglaises, mais on ne veut pas vous les sortir trop tôt avant qu'elles sortent en France. Donc, c'est le point. Et puis en même temps, on a nos filles de famille.
Voilà. Ça. En tout cas, vous inquiétez pas, en mai-juin, quoi, on vous fera une émission pour le.
Ouais, sur les Mandalorians et puis un autre rapide sur Vision.
Voilà, sur Vision. Alors Vision, peut-être qu'on regroupera avec. Je sais qu'il y a l'équilibre fragile précédent, donc le tome sur la Haute République phase 2 qui est prévu en France par Nomi Dobby. Et en VO, il y a un 4e tome, Edge of Balance phase 3, qui sort en août, là, donc qui sortira dans la foulée en France. Donc on a encore. 2 tomes de prévu en France, si je ne dis pas de bêtises, les 2 tomes de la Haute République. Et après ça, ben on aura tous les mangas sortis en anglais et en japonais sont dispo en France. Quoi. Ça, c'est quand même très très cool. Merci à Nomi Dobby.
Oui. Mm-hmm. Bah, Nomi Dobby pour la version française, mais en tout cas, merci à eux.
Ouais. Et si tu as une.
N'hésitez pas à le sortir aussi au Québec, hein, si jamais.
Oui, c'est vrai. Voilà,
c'est un clin d'œil quand même. Il y a 8 millions de personnes qui parlent français ici.
Mm-hmm. Franchement, il y aura moyen. Le boom du manga aussi, il existe en Amérique du Nord et au Canada.
C'est le manga francophone. Je connais pas les ventes, mais je sais que le manga francophone. Est...
Ouais.
Ah. Et se vend très, 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 très bien au Québec, hein, y a pas de souci. Mais là, on parle d'une niche, tu vois. Puis on sait que les fans de Star Wars en Amérique du Nord. Sont un peu véhéments avec la version française.
Alors ça. Enfin, petite note pour conclure.
C'est vrai que tu es très.
Ouais, non, c'est petit clin d'œil à Tom. Non, je m'en fous. Si tu veux qu'on skip, on peut skip. Non, mais,
c'est que les notes, c'est sur combien? Je me souviens même plus déjà, tu vois.
Ouais, généralement, on fait sur 20 en comics et romans, mais.
Écoute, je sais pas, moi. Je te dirais. Les dessins sont exceptionnels, l'histoire, je la connaissais déjà, je sais pas, un 17 ?
Ah, très 16, bien, bah, tu vois.
16-17, quelque chose comme ça.
Voilà, j'avais mis un 15, je me rappelais des notes de l'époque, il y a 2-3 ans. J'avais mis juste un 15, mais là, en relisant, je me suis dit, ah, non, c'est quand même super cool. Encore une fois, tu le disais, le dessin, il sublime la série, mais à un point incroyable. Incroyable, donc j'ai mis un 16, pareil, donc 16-17, ouais, bah, un peu comme toi. Donc ça, moi, ça n'atteint pas le niveau de Lost Stars, tu vois, et même Leia, limite. Lost Ark, où j'avais mis la note maximale avec Loïc à l'époque. Mais ça reste du très, 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 très bon. Franchement, excellent.
Eh ben, voilà. C'est parfait, c'est parfait. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous. Je vous rappelle que on a tous nos réseaux sociaux disponibles. On a YouTube, Discord, Twitch, X, anciennement Twitter, qui sont disponibles. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire vos petits commentaires. Je crois que Dany a fait un Star Wars. Alors, swendirect.bsky. Tu m'as enlevé le truc, point social. Donc, swendirect.bsky.social. Je crois que c'est le lien, c'est pour retrouver tous nos réseaux de partout.
Parce qu'on a aussi. C'est Blue Sky, ça. C'est le nouveau réseau social Blue Sky, en fait.
Ah non, bah tu vois, dis donc, heureusement que je suis dans le domaine, hein, je savais même pas, tu vois. Bon, bref, en tout cas, on est partout, on est même sur Instagram. La page Facebook, c'est Star Wars Podcast, parce qu'on s'est fait shooter notre page. Bref, retrouvez-nous, faites-nous vos commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce manga. Dites-nous aussi vos plus beaux souvenirs d'Akira Toriyama. Je sais, mais en tout cas, ça sera plaisant de vous lire, parce que ça sera plaisant, de participer avec vous un peu à cet hommage. Il y a des personnes en France qui ont proposé, il y a la communauté brésilienne et puis la communauté française qui s'est réunie avec ça pour proposer d'envoyer des photos où tout le monde fait des Genki-Dama. Donc n'hésitez pas à envoyer des Genki-Dama sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Toriyama. En tout cas, de la part de l'équipe de Star Wars en direct, merci d'avoir été à l'écoute de notre podcast, de notre émission Star Wars en direct manga littérature. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis que la force soit avec vous. Et comme disait Sangoku à la toute fin du combat contre Cell, que Jean n'a pas encore vu, au moment où il se téléporte, bye bye les gars et bye bye Toriyama. Merci pour ce que tu as fait et à bientôt.